Coconut Podcast. Saison 5. Présenté par le groupe Quartier. Avec votre animateur, Alain Jou. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. On reçoit une invitée qui se passe de présentation, messieurs, dames. Elle fait un retour à Coconut Podcast afin de nous parler de sa vision de l'actualité et on va profiter à faire quelques analyses avec elle. Messieurs, dames, nous l'avons connue comme candidate. Oui, aux élections provinciales. Nous l'avons connue comme femme de télévision. Elle faisait des apparitions sur les grands panels, entre autres à TVA. Et aujourd'hui, elle est militante pour les droits de la personne et surtout, elle milite activement pour une justice sociale, mais pour tous. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir, mais surtout une grande joie, et que nous pouvons dire de manière fraternelle, nous accueillons à Coconut Podcast. Oui, je suis vraiment content. Je dis bien Eve Torres, messieurs dames.
Bravo, quel accueil.
Eve Torres, ben écoute, là, ta deuxième fois à Coconut Podcast.
Ouais.
Comment ça va?
Ça va bien, je dirais que ça va bien. Je suis toujours agréablement surprise ou de ta façon d'accueillir. Je t'en remercie beaucoup. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas croisé à Coconut, mais je t'ai suivi. J'ai suivi tout au parcours à travers le Québec, etc. Donc, effectivement... T'sais, avec tes prix et tout ça, donc ça me fait plaisir de te retrouver ici encore.
Ben écoute, Eve, tout le plaisir est pour nous. Surtout, on a vécu trois ans de pandémie.
Ouais.
Il y a beaucoup d'eau qui ont coulé ces ponts, comme on dit. Eve Torres, comment vis-tu cette sortie de crise sanitaire? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé, cette question.
Oh!
Ouais. Ça a l'air qu'en Asie, ils sont encore sur le qui-vive, en alerte. Toi, comment as-tu vécu ces trois dernières années? Ça fait longtemps, là, on s'est vu en 2020, je pense.
Oui, effectivement, bah, je pense que comme tout le monde, t'sais, on sort tranquillement. En fait, je dis tranquillement parce que ça a changé certaines habitudes. On avait pris, t'sais, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'engagement, je trouve que évidemment avec toutes les mesures sanitaires, ça s'est un peu tassé. Pendant toute cette période-là, j'étais quand même dans le milieu communautaire, donc je l'ai vécu activement. T'sais, j'étais... dans la première partie à la CDC de... D'abord à Côte-des-Neiges.
À Côte-des-Neiges, OK.
C'est ça, à Côte-des-Neiges, dans la première vague. Mm-hmm. Puis dans la deuxième vague, effectivement, à la table de quartier de Parc Extension. Okay. Donc, directement impliqué sur le terrain avec les communautés. Donc, c'était quand même des moments où ça a fait, tu sais, ressortir. Tout le monde l'avait dit, tu sais, toutes les vulnérabilités, tu sais, mettre l'emphase sur les enjeux. Et puis, là où on a vu... toute l'apport nécessaire, tu sais, du milieu communautaire, la capacité de se remettre, tu sais, de se mettre en action, exact. Vraiment. Puis bon, comme tout le monde, ça a été une période difficile, tu sais. Aussi, on était chez nous pendant longtemps, on était isolés politiquement. C'était assez mort. On va le dire comme ça.
On va parler un peu plus tard dans l'entrevue.
C'est ça, oui. Pour mettre la table. Mais sinon, je dirais que, voilà, je pense qu'on en sort. T'sais, on reprend des rythmes de vie. Et puis, professionnellement, les gens recommencent à sortir du télétravail. Mais c'est quand même assez lent. T'sais, mais voilà, les dynamiques reprennent. Mais bon, malheureusement, tu sais, On aurait pu, tu sais, pendant cette période-là ou au sortir de cette période-là, peut-être en profiter, tu sais, pour supporter un peu mieux à travers toutes les réalités qu'on a vécues. Tu sais, on s'est rendu compte de plein de choses, la situation des aînés,
Merci. Les femmes
notamment,
monoparentales également,
exact, toutes les
la
situations des personnes
violence,
isolées, les augmentations de cas de violence conjugale, effectivement aussi.
santé mentale, on en voit les
Voilà,
répercussions
tout à fait.
post-pandémie, là, en quelque sorte.
Ouais, exactement. Puis on aurait pu penser, tu sais, que plus de mesures auraient été mises en place à la lumière de tout ça. On aurait pu penser que le communautaire, avec tout le travail incroyable qu'il a fait, aurait pu, tu sais, peut-être avoir de meilleurs financements, tu sais, plus de moyens, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des partenaires indispensables. On a vu la situation aussi, tu sais, des personnes migrantes qui étaient venues travailler, tu sais, dans tous nos milieux pour nous donner un coup de main. Et on aurait pensé donc, tu sais, à travers tout ça, qu'on allait en profiter, tu sais, que les gouvernements allaient prendre des dispositions, libérer des modes de financement. Mais voilà, est-ce qu'on prend des leçons?
Ouais, bon, on sait quand même, on a nos travailleurs saisonniers sud-américains qui viennent travailler au Québec et on a quand même vu une sortie du gouvernement actuel, Ève Thorez, en ce sens. Bon, des fois, on se demande est-ce qu'ils sont vraiment un plan, là? Parce que d'un côté, on demande la fermeture bon, de certains points d'entrée, je vais le dire ainsi pour ne pas les nommer.
Ben, je vais me permettre de dire que à l'heure où on se parle, le chemin Roxham est fermé.
Le chemin
On
Roxham est
pourra
fermé,
revenir sur
mais il y a quand
ce
même une
sujet.
sortie pour demander aux compagnies québécoises d'offrir les mêmes conditions de travail. Et je pense que ça, c'était la moindre des choses afin que nos travailleurs saisonniers soient payés à leur juste valeur et qu'ils ne soient pas exploités, là, en quelque sorte. Donc, on sent qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être, sur la valeur et la nécessité de bien accueillir ces travailleurs-là.
Je serai moins positif que toi. Je
On est
peux
dans
pas
un
dire, voilà. Et puis on est
podcast.
là, on jase. Non, je peux, j'ai pas de, je pourrais pas parler de prise de conscience parce que
Je parle de
je
la
veux dire, on
société
a vu
québécoise.
dans la société, il y a eu une meilleure peut-être connaissance de ce qui
OK,
se passe. C'est une meilleure
d'accord.
connaissance peut-être des réalités, mais ceci dit, politiquement, ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, on avait vu les propos de l'ancien ministre de l'Immigration,
Monsieur
Monsieur
Boulay.
Boulay notamment, qui qualifie, qui
Mais c'est
mentionnait
excusé, c'est une bourde,
que
là,
les personnes
complète.
migrantes, c'était une bourde, mais ce qui est dit est dit. Et puis, c'est toujours, tu sais, à double tranchant. Tout le monde ne peut pas avoir la même liberté dans l'espace public, et je sais ce que je dis, de faire des bourdes, si on peut appeler ça comme ça. Donc, bref, tu sais, on pense toujours qu'on va avoir politiquement un éveil. Mais par rapport aux décisions qui sont mises en place, c'est pas ce qui se manifeste. Donc, quelle est la réalité des prises de conscience quand les actions politiques ne suivent pas? Je te remets la balle au centre.
OK, excellent, excellent. Et là maintenant, on va aller voir qu'en pensent les plus jeunes. Tu sais, on sait que tu as traversé cette pandémie avec tes petits amours, là.
Ouais.
Hein? Ben, maintenant, ils sont rendus un peu grands, là, quand même. Il y en
Oui.
a qui sont à l'université, là.
Oui.
Mais, ouais. Mais est-ce que ta plus grande, est-ce que tu l'entends par moment dire, hey, ça n'a pas d'allure, ça, par rapport aux décisions récentes du gouvernement actuel? Est-ce que des fois, tu parles un peu politique avec
Oh.
tes enfants?
On a des discussions animées, effectivement.
Ça veut dire qu'ils sont pas toujours d'accord avec toi.
Bah quand même, d'une manière générale, je les ai bien éduqués. Alors,
Bonne réponse.
non, mais je
Excellent.
veux dire, non, c'est sûr qu'on a des discussions sérieuses. Ils ont vécu la pandémie un petit peu difficile. T'sais. Je pense que si je me rappelle, ma fille la plus âgée, qui est maintenant en deuxième année, qui termine sa deuxième année à
OK, quand
l'université,
même.
Mais.
Bravo, bravo.
Ben oui. Son cégep, elle l'a fait quasiment toute sa période. Tout est en ligne. Okay. Donc, c'était assez difficile. Mon fils, qui aujourd'hui est au cégep, puis qui a déjà 18 ans, le
grand
plus
sportif,
grand.
Là, aussi.
Oui, ouais, oui. Ouais. Un bon parcours de soccer.
Maman est fière.
Maman est fière, bon, ouais, de sa progéniture,
bon,
j'avoue.
Excellent, excellent.
C'est vrai.
C'est bon.
Et comment dire, donc ça a été quand même, même pour le plus jeune, tu sais, qui vient d'avoir 10 ans aussi, ça a été des moments difficiles pour eux. Parce que, bon, à l'école primaire, tu sais, ils étaient séparés de leurs amis, l'adaptation. En fait, c'était plus l'isolement, l'adaptation au masque, etc. à l'école. Je dirais que les cours en ligne, pour ma fille, c'était. Et puis pour mon fils, qui était un petit peu plus grand, c'était pas si pire, mais effectivement, c'était le contact, la socialisation, tu sais, tout ça, c'était un peu plus dur. Les discussions politiques, chez nous, il y en a toujours, OK?
Bon, bon, bon.
Les discussions sur l'actualité.
On est à l'Assemblée nationale, oui, oui, chez les Tarais.
Pas forcément, comment dire, tu sais, pas partisane forcément, parce que je te dirais que... Tu sais, c'est ça, les chemins sont différents, les visions sont différentes. Mais je trouve que quand même, les jeunes, d'une manière générale, puis bon, mes enfants, mais pour avoir discuté avec beaucoup d'autres jeunes, tu sais, dans certains organismes, je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment bien conscients des différentes situations. C'est ça, à travers la province, dans la ville, peu importe, c'est au Québec, au Canada en général, ils ont des discussions extrêmement brillantes. Oui, il y a une plus grande conscience de toutes les questions environnementales, qui est vraiment aussi un élément essentiel pour eux, parce que, bon, plus...
c'est une question...
c'est ça.
Qui est vraiment plus on... à leur génération également.
Là. Oui, tout à fait. Et puis, on l'a vu chez beaucoup de jeunes. Tu sais, c'est l'avenir en tant que tel, mais leur propre avenir. Tu sais, est-ce qu'on veut une famille? Est-ce qu'on ne veut pas de famille? Tu sais, toutes ces discussions-là. Politiquement aussi, tu sais, il y a toutes les discussions en lien avec leur identité, ce qu'ils vivent, tu sais, ce qu'ils réalisent entre... Puisque bon, moi, tu vois, comme je te disais, j'ai des enfants à l'université, au cégep, au primaire. Et la manière dont ils réalisent dans nos discussions d'aujourd'hui, tu sais, tout le rapport à leur identité, tu sais, donc pour eux, tu sais, un mélange, tu sais, français, algérien ou algérien-français, canadien, québécois, tu sais, quel est leur rapport à cette identité. Et puis ça... C'est ça, ils ont pris conscience de différentes choses. C'est très intéressant de voir la société à travers leurs yeux et leur compréhension.
Okay, intéressant, intéressant. Eve Torres, en début d'entrevue, nous l'a lâché avec un petit sourire en coin, disant que durant la pandémie, bon, la politique, militante, active et même celle qu'on regardait à la télé était plutôt terne. Mm-hmm. Après entrevue, tu nous disais, bon, il y avait des points de presse et des points de presse, bon, pour garder la population informée tout mm-hmm. de même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard...
Une élection plus tard aussi.
Une élection plus tard, c'est vrai, mine de rien, hein, mine de rien. On pensait que tu allais te présenter, by the way. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas été intéressé par la chose.
J'ai hiberné, j'ai oublié de me réveiller.
On ne t'a pas contacté?
Si.
Oui, OK.
Oui, on m'a contacté effectivement. Et puis, c'est vrai que ça faisait partie de mon projet. Effectivement, pour moi, tu sais, le fait d'avoir fait une élection, d'abord, le fait... d'avoir choisi d'aller en politique, tu sais, en 2018, lorsque j'ai fait ma campagne, comme souvent je l'avais mentionné, tu sais, c'était pas une fin en soi, mais c'était quelque chose où je voulais m'engager parce que peut-être naïvement, je m'étais dit après tout ça fait j'ai passé plus de 20 ans dans les milieux communautaires, à être engagée, tu sais, sur différents enjeux et tout ça au sein de la société. Donc pour moi, ça restait important. Puis d'aller en politique, c'était peut-être une façon aussi de se dire, bon, bah, peut-être que je peux aller plus loin, tu sais, qu'on peut faire plus de changements. Évidemment, quand on est dans ce milieu-là, on réalise que forcément, tout n'est pas parfait. Tu sais, il y a des lumières qui s'allument. C'est là aussi où tu places toi, tes lignes éthiques, tes lignes de valeur, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Après cette élection-là, même, elle a été difficile. Je pense que ma 2018. Campagne, celle de 2018, oui.
Est-ce que tu sens que tu as été largué, trahi, blessé? Est-ce que tu as eu ce ressentiment à un certain moment?
Je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas parce que tu le sais, je sais ce que je représente, tu sais, comme femme musulmane qui porte le foulard. Puis à ce moment-là de l'élection, je portais mon foulard aussi d'une manière peut-être un peu plus traditionnelle, avec tout le parcours qu'on avait vu en lien avec l'islamophobie et tous les changements au niveau du Québec, tu sais, 2007, l'accommodement raisonnable, 2014, la charte des valeurs, etc. C'est ça, donc on a dans ce parcours-là, forcément, je savais ce que je représentais, je savais que ça allait être un défi, puis j'étais prête à l'assumer. Et c'est ce terme-là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que même lorsque tu te présentes pour un parti, certes, tu vas dans un parti, tu adhères à des valeurs, tu fais confiance, ça devient une famille politique, comme toutes les familles, c'est imparfait. Mais ceci dit, où toi tu places ta limite dans ce que tu considères d'imparfait? Qu'est-ce qui respecte ton éthique? Est-ce que tu es capable de passer outre certaines positions de parti? Oui, non. Est-ce que tu es capable de te présenter dans une autre élection, dans l'espace public, en étant convaincu de ce qui va avancer? Sur quoi tu es prêt à t'asseoir pour aller te présenter devant la population et vendre, entre guillemets, cette image de parti?
La loi 21, moi, non. T'as été déçu de voir la position de certains de tes frères d'armes de l'époque, qui étaient à l'Assemblée nationale, et de voir que la ligne de parti, l'aile parlementaire a opté pour une façon de se positionner par rapport au projet de loi de l'époque. Et le parti même, sa base militante, certains groupes à l'intérieur même du parti, antiracistes et autres, étaient farouchement opposés. Est-ce que soit ça t'a surpris ou bon, écoute,
non, j'avais espoir à ce moment-là. Je veux dire, par rapport au parti dans lequel j'étais investie, puis on peut le nommer, c'est Québec c'est solidaire, tu sais, je suis pas, j'ai pas honte.
Ouais, bien sûr, c'est un beau parcours.
Je veux dire, même si c'est ça, même si après des choses changent et puis tu choisis, tu sais, où tu places, comme je te disais, tes limites par rapport à la représentation que tu veux faire dans l'espace public, par rapport à leur propre position. Mais quand même, à ce moment-là, j'avais quand même espoir, et je ne me suis pas trompée, puisque ça s'est avéré après les élections, que le parti se positionne différemment. Il y avait la position de Bouchard-Taylor qui était mise de l'avant. Ce n'était pas quelque chose auquel j'adhérais. Mais j'étais quand même convaincue qu'il y aurait pu avoir ce changement-là. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, il y a eu une position. Tout à fait. Le parti a changé sa position et s'est opposé.
Est-ce que Québec solidaire a changé aujourd'hui? On voit qu'ils font des gains dans la région métropolitaine de Montréal, sur l'île de Montréal plutôt. Quelqu'un qu'on a vu lors de ta campagne de 2018, militant pour les droits de la personne fort connu au Québec, Haroun Bouazi, qui a été élu avec Québec solidaire, et il avait été même défait à l'investiture la première fois. Mm-hmm. Est-ce que Québec solidaire a cheminé à un certain niveau et puis aujourd'hui est capable davantage de convaincre certains gens de certains quartiers qui leur étaient peut-être moins favorables jadis?
Je ne Personnellement, et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons, c'est pas peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas y aller. Non, moi, j'étais en désaccord avec les dernières positions de Québec solidaire, notamment. Bon, il y avait eu des divergences à l'interne sur lesquelles je ne tiens pas forcément à revenir parce qu'il y a de la... On a la poutine à l'interne de tous les partis et on est d'accord ou pas. Ceci dit, c'est vrai que on n'a pas vu, même pendant la pandémie, je pense qu'aucun parti ne s'est vraiment démarqué. On s'entend, il y avait une forte présence de la CAQ, du Premier ministre Legault à ce moment-là, ce qui quand même était normal dans un premier temps, c'est pas les rassurer la population. Être au-devant. Et puis bon, je pense que ça a été fait avec énormément de zèle et puis ça donne énormément de crédit quand tous les jours tu passes à la télé en point de presse, ça te donne une grande visibilité, ce que n'avait pas, voilà, tout à fait, et puis c'est ce que n'avait pas comme possibilité forcément les autres partis. Ceci dit, à un moment donné, il aurait certainement fallu allumer sur certains enjeux pour se démarquer, montrer la sensation qu'il y avait une opposition. Et je te dirais que depuis les dernières élections, même, tu sais, actuellement, jusqu'en date d'aujourd'hui, je pense que, tu sais, les oppositions ne se démarquent pas. Je trouve qu'il y a une absence, tu sais, de présence politique. La CAQ, selon moi, a trop de latitude. Bon, c'est le gouvernement au pouvoir. Il a été élu avec de manière plus forte que la première fois que sa première élection. Mais c'est ça. À mon sens, les oppositions ne se démarquent pas. En ce qui concerne l'élection d'Haroun, j'ai d'Haroun Boisy, donc député de Maurice Richard maintenant. Je ne pense pas que c'est forcément un changement de parti, parce que même, comme je te disais, la dernière position en se joignant encore à la loi 96, dont on connaît donc la loi sur la langue, qui est venue quand même discriminer une partie de la population, puis qui est venue rajouter des obstacles systémiques, même si c'est un mot qu'il n'aime pas, mais qu'il faut assumer, à l'accès à des services, à certaines catégories de la population. Donc, bref, moi, pour moi, exactement. Et puis pour moi, ça, c'était des positions vraiment, tu sais, c'était comme un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Ceci dit, je pense que Haroun Boisy, lui, s'est démarqué par l'essence et le travail qu'il a mis dans sa campagne. Donc, je sais ce que c'est, tu sais, de travailler fort dans une campagne électorale, tu sais, c'est pas facile, tu sais, de convaincre la population, c'est pas facile d'être une personne racisée en politique. Je pense en grande partie, oui, effectivement, tu sais, c'est pas un candidat autonome et puis qui fait ses choses, il appartient à un parti qui avait une possibilité, tu sais, il y avait une fragilité de la députée libérale à ce moment-là. Le parti libéral n'était pas à son maximum, donc il y avait une opportunité. Mais quand même, je mettrais la reconnaissance, même si les idées effectivement passaient dans Maurice Richard. Et puis, je pense que pour ça, Haroun a fait un grand travail de terrain, de proximité. Je pense qu'il a vraiment fait un... Parce que les gens, il ne faut pas oublier, oui, ils votent pour un parti, pour les idées d'un parti. Des fois, ils votent pour une personne, la personnalité ou l'enjeu qu'elle représente. Et c'est pour ça, quand tu dis Eve Torres, je ris. Je souris parce que moi, je suis Eve. Et Eve Torres, c'était la personne sur les affiches de campagne. Et c'est pour ça, c'était une façon de garder une distance entre la personne sur les affiches, puis qui représentait quelque chose. Parce qu'on sait que même si tu es là, tête d'affiche dans une campagne électorale, tu fais rien sans les bénévoles, sans les militants, sans les gens sur le terrain, tu n'es rien tout seul. Mais tu connais ça parce que tu es passé par là, non?
Ouais, moi aussi j'ai été candidat.
Mais oui,
c'est tout un travail.
Tu veux en parler?
Oh là là.
Je peux t'interviewer.
Un autre tantôt. Une pause.
Comment ça va? Ouais. Ça va, ça fait du sens notre affaire ou... Oh, pardon. Je suis en train de regarder mon sel.
Donc ouais, je pourrais t'en parler, mais on en refera une autre entrevue. Eve Torres, l'élection du gouvernement de la CAQ rime avec la déconfiture du Parti libéral. Dominique Anglade, grande femme, grande tête au Québec, elle l'a pas eu facile, mais en tant que femme dans cette intersectionnalité, j'aimerais avoir ton analyse de militante avertie. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, lorsqu'il y a une femme issue de la diversité, on a Kamala Harris, là je parle de grands exemples. Vice-présidente, c'est ça, des États-Unis. Ouais. Et elle-même, c'était un article qui était paru dans la presse, où ce qu'on relatait que, ouf, on lui jouait.
Est-ce que tu te rappelles de l'article justement intitulé La falaise de verre ? Ça, c'était. C'est une opinion personnelle que. Peut-être certains partagent ou d'autres ont partagé. Je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu aussi des personnes qui se sont prononcées là-dessus. Si tu te rappelles, quand Dominique Anglade est entrée chef de parti, justement, c'était un moment crucial. C'était pendant la pandémie. Donc, à un moment difficile, il y avait eu des gens qui s'étaient désistés de cette campagne-là. Et ça a été quelque chose... Alors, attends, bien sûr, c'est une femme compétente qui a ses idées, et puis, tu sais, ça, c'est pas ça, mais il y a eu plusieurs questions qui se sont posées, effectivement, à ce moment-là, je me la suis posée aussi. Je me suis dit, est-ce que le Parti libéral, puis je connais pas toutes les... Tu sais, l'intérieur du Parti libéral, et puis tout leur fonctionnement, un peu, mais pas suffisamment, mais en tout cas... Parce que ça s'est vu, ça se voit des fois dans certaines nominations. Bon, là, c'est une élection. Est-ce que c'est l'opportunité du moment qu'a fait qu'on s'est dit « Oh, tu sais, peut-être, ça serait pas si mal, tu sais, on va mettre cette femme-là. » Parce que je trouve qu'encore, tu parlais des États-Unis, mais je trouve que la politique, quand même, même au Québec, tu sais, si on a eu une première mairesse, tu sais, avec Valérie Plante, donc c'était en 2016, ouais. 2016, et que c'est malgré tout, je trouve que la politique, c'est encore un milieu très masculin, on est encore très patriarcal dans une pensée politique. On a beau dire qu'on a fait des avancées, mais il y a du chemin à faire, tu sais, parce que dans la mentalité, j'ai l'impression qu'on donne encore... Bon, le milieu est encore très masculin, même si on se force, tu sais, à élire... on essaye d'avoir, tu sais, une bonne proportion de femmes, etc. Même dans la pensée, c'est encore en questionnement. Est-ce qu'on fait encore plus confiance en politique à un homme qu'à une femme, qu'à une femme, alors je vais utiliser ces termes-là, qu'à une femme blanche, qu'à une femme racisée? Oui, c'est sûr, on commence à le voir, mais même à ça, je ne sais pas si on se rappelle, tu sais, de Pauline Marois, son élection, par exemple. Tu sais, il y avait eu des commentaires juste aussi, tu sais, sur sa manière d'être tricolorée, vestimentairement parlant, etc. Donc, elle avait un peu mis son look, tu sais, un peu plus neutre pour correspondre à certaines normes. Donc, je trouve que malgré tout, puis on ne peut pas... ne pas souligner, tu sais, les avancées, le fait qu'on arrive à avoir des parités, etc., et puis qu'on a des personnes racisées maintenant en politique. Mais c'est ça, des fois, il y a des questionnements, tu sais, qui se posent sur la façon dont les personnes arrivent, sur la façon dont, des fois, ça se termine. C'est ça. Dans ce cas-là, tu sais, je pense qu'il y a encore des questions à se poser. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Tu sais, même pour tester, prendre le pouls, tu sais, changer, voir un peu dans l'opinion publique comment on envisage encore la politique. Et puis, est-ce qu'à l'intérieur même des partis, sais, c'est pas encore un milieu un peu patriarcal. Je sais que les gens aiment pas ça, mais je pense qu'on est encore un peu dans cette veine-là. On a du chemin à parcourir. On avance quand même.
On avance quand même. On arrive vers la fin de l'entrevue, Ève. Tu vas revenir, c'est sûr. Ève
Je
Torres,
reviendrai.
on a vu lors de la nomination par Madame la mairesse, en tout cas, à la ville de Montréal, du moins, de Bochra Manaï, il y a eu une levée de boucliers, même des plus grands magistrats de la province, entre autres. Pour des sorties de Madame Manaï à l'époque. Bon. Il y a également
Des sorties.
ce qu'elle avait fait des sorties publiques ou ce qu'elle avait.
Ah, sans le rapport à la défense
Voilà.
de la loi 21.
Voilà.
Effectivement, il n'est pas bon au Québec de militer contre la loi 21. Ça passe mal. Ah, on ne va pas se le cacher.
Mais j'arrive avec ma question. Il y a cette journaliste qui au Canada anglais, mais qui avait vécu à Montréal, qui elle-même a été nommée par le Premier ministre Trudeau.
Amira El Rawabi.
Merci. Comme poste presque équivalent hein, à celui de Bochra, là. Que quoi, commissaire de la lutte contre l'islamophobie, voilà. Et puis, il y a eu une levée de bouclier également au Québec, parce que elle-même, dans le passé, avait déjà, à l'aide de sa plume, hein, voilà, émis, fait certains amalgames, selon la lecture québécoise, hein, entre autres. Laissant présager que les Québécois n'étaient pas très très ouverts, pour le dire ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant, du côté des acteurs de la diversité, un travail de trouver le bon langage afin de bien vulgariser leurs pensées, afin d'éviter, hein, je pense que c'est une bonne question ça, afin de parer ou d'éviter ces levées de boucliers parce que ce qui avait été dit allait complètement à l'encontre de la façon de penser de la dite majorité.
Pour reformuler, tu veux dire, est-ce qu'il faut lisser son langage pour dire ce qu'on pense? Sincèrement, aujourd'hui, moi, je te dirais que c'est quelque chose que je trouve assez fatigant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les débuts, je vais partir de moi. Dans les débuts qu'on arrivait, tu sais, entre les accommodements raisonnables et la charte, on était nombreux, nombreuses, tu sais, à émerger, en voulant se positionner sur certains enjeux. Et moi, je me rappelle à l'époque, tu sais, dans les milieux communautaires ou sur le terrain, on se disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Québec? Le Québec change. Et à chaque fois, chaque engagement, chaque prise de parole, chaque discours dans des manifestations, tout ça, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que les gens nous connaissent mieux, pour qu'on soit plus impliqués? Tu sais, vraiment, c'était très sincère. Etc. Donc, à chaque fois, tu sais, la remise en question. Est-ce qu'on a bien parlé? Est-ce qu'on s'est bien présenté? Est-ce que les gens nous connaissent plus? On a fait des expositions tu sais, pour présenter des personnes bon, musulmanes, là notamment en lien avec l'islamophobie et tout ça. Mais bref, tu sais, chaque personne racisée de différents groupes, il y a eu des avancées. Médiatiquement, on a parlé de plus en plus de choses. Le rapport avec les communautés autochtones et tout ça, qui serait déjà la base, si on parle en termes de militantisme, parce que des fois, moi, ça me dérange. T'sais, on parle d'islamophobie, bon, mais bon, y a tout le. Et puis, c'est pas que je veux hiérarchiser ou tout ça, mais tu sais, je veux dire, on
Yeah,
a,
c'est pas
voilà,
une
de l'éducation et encore des, tu sais, de le racisme
aborigéno
systémique. Des fois,
aménophobie là
tu sais, je me dis, bon, j'arrive, mais. Dans les
yeah.
communautés autochtones, c'est ça, il y a des choses à faire, c'est encore pour moi différent. Donc, bon, toute la relation avec les communautés noires, puis tout ce qu'on a vu, etc. Enfin, bref, il y a toutes sortes de choses. Et ça fait des années que, effectivement,
on se présente,
on prend les insultes. On doit les prendre avec calme. Parce que souvent, ce qu'on nous demande, et puis on veut contrer un peu les préjugés, c'est les personnes trop militantes. Les personnes militantes, tu sais, il faut faire attention, pas être agressif, prendre ça calmement, éduquer. Donc, je ne sais pas si tu imagines le fardeau. Et ça, on l'a inscrit sur plusieurs années. On est en 2023. Tout ce qui est sorti, on était dans la rue pour George Floyd. Il ne faut pas oublier qu'on va dans la rue... par rapport à tout ce qui se passe, tu sais, avec les femmes iraniennes, tu sais, aussi, on a vu Joyce et Chakwan, pardon, tu sais, je veux pas, tu sais, oublier personne, mais en même temps, on a vu tous les débats de société, le N-word, la liberté d'expression, etc., etc. Il y a des rapports, des tas de rapports, le profilage racial, les crimineux, l'attentat de la mosquée de Québec, name it, comme on dit.
Tu sais,
je veux dire, oui, exactement. Tu sais, je veux dire le rapport avec pendant la pandémie, l'augmentation des actes haineux envers les populations asiatiques. Tu sais, donc, je veux dire, tout ça, on en a vu, on a parlé. Il y a des réseaux sociaux. Ça a été des débats. Il y a eu des lois, des mauvaises lois, des bonnes, je les ai oubliées. Je focus sur les mauvaises. Mais il y a eu des lois, il y a eu des problématiques de société. Tu veux me demander encore ? Tu veux demander à la famille de Joyce ? Tu veux demander à la famille de... J'ai pas tous les noms qui me viennent en tête, mais tu veux demander à toutes les personnes encore de lisser leur discours pour participer à l'éducation populaire ? Je veux dire, les gens sont capables de s'abreuver des médias mainstream, de lire un journal de Montréal qui ne relate pas toujours les bonnes informations, on s'entend, ou qui veut faire, on va dire qu'il veut faire du sensationnalisme. Et puis là, je ne parle pas forcément de journaliste, je parle de chroniqueur, ce qui n'est pas la même vocation, qui se complaisent à vendre une certaine vision de la société, on s'entend. Il y a un discours politique où tu entends des politiciens qu'ils ne se parlent pas d'une bonne façon, qui véhiculent des préjugés, comme on l'a dit, sur les personnes migrantes. On se rappellera quand M. Legault a lâché le fait, tu sais, il a fait un amalgame entre la violence et l'immigration. Un ancien ministre de l'immigration, M. Boulet, qui a quand même dit que les immigrants, ils ne voulaient pas apprendre le français, ils ne voulaient pas travailler. Alors, paradoxalement, le truc qui véhicule dans la population québécoise, c'est « Ah, tu sais, on va nous piquer notre job, puis en même temps, ils ne veulent pas travailler. » Tu sais, à un moment donné, il faut accorder les violons. Mais enfin, bref, tous ces propos véhiculés, la plupart des gens ont accès aux réseaux sociaux. Il y a une diversité de sources, tu sais, pour s'alimenter. Il y a des débats, il y a des études, il y a des recherches, il y a des commandes, il y a une commission des droits de la personne. Il y a des... Alors, ce que je veux dire, c'est que si tu me demandes s'il faut... qu'aujourd'hui, je fasse encore attention pour ne pas choquer si je dis que nous avons encore des progrès à faire en termes d'approche antiraciste, en termes d'approche antiraciste décoloniale. Si je parle de racisme systémique parce que le système perpétue un système d'oppression, même s'il tend à l'améliorer. Si je parle de féminisme intersectionnel, c'est parce que je le vois que quand tu es une femme... Peut-être une femme noire en situation de handicap, une personne des communautés LGBT. Tu sais, je veux dire, ce que tu reçois comme service, ton accès à certains postes et tout ça sont encore plus difficiles. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut arrêter de débattre sur la sémantique, appeler un chat, parce que c'est valable des deux sens. Tu sais, On s'est obstiné beaucoup ces derniers temps dans les débats. Il y a une motion qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une motion de l'Assemblée nationale. Donc, on a perdu de l'argent et du temps pour dire non, le Québec n'est pas plus raciste que les autres. Tu sais, comme est-ce que c'est vraiment un débat ? Et dans le cas des nominations, de la nomination notamment dont tu parlais, on a fait beaucoup de discussions en disant « Oh mon Dieu, nous, on est toujours, tu sais, Parce qu'on ne veut pas être traité de raciste. Personne n'aime ça. Donc, on passe plus de temps à se défendre pour dire « Ah ben non, nous, on n'est pas raciste. » Puis, nous aussi, au Québec, on a vécu de l'oppression. Il n'y a personne qui rejette ça. On n'est pas dans une compétition. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vécu comme oppression ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu la reproduis aujourd'hui ? Ou est-ce que tu te dis « Je me rappelle, à l'époque, sous le joug anglais, on était traités comme ci, comme ça, comme ça. De cette histoire-là, on va arrêter ça maintenant. On ne va pas reproduire ces actions-là et on va mettre des choses en place pour que ça s'arrête. » Donc, c'est ça.
Dans un bassin où on est entouré d'anglophones, c'est comme un bassin anglo-saxon, il est quand même légitime.
La langue, personne... La langue,
ouais,
en fait...
Une insécurité... C'est vis-à-vis
tout à fait, mais comment
valeurs autres qui peuvent mettre en danger. C'est là que je dis, c'est ça.
La langue, plein de personnes issues de l'immigration qui choisissent le Québec. Et je fais partie de ces gens-là. J'adore la langue française. Je suis arrivée ici, ma deuxième langue, c'était l'allemand. Je ne parlais pas l'anglais. Donc, j'étais très contente d'arriver en Amérique du Nord, de parler français. Il y a plein de pays, de la francophonie ou de l'immigration, les gens parlent français. Tout le monde, on s'entend. On s'entend que la langue française, le français, sans interdire ou discriminer les autres langues, est une langue qui rassemble. Mais alors après, c'est comment on le vend à la population ? Si tu mets une loi qui arrive, parce qu'il y a des choses dont on doit tenir compte, les populations, tu sais, les familles, le regroupement familial des personnes qui viennent, je ne sais pas, d'Asie du Sud-Est, tu sais, de Mainte, tu arrives avec ta famille, toi, tu es le papa, tu as 70 ans, tu dois apprendre le français pour... Comment on sait que ça va être plus difficile. On sait qu'on te demande 6 mois pour apprendre la langue, mais que tu as déjà 10 mois pour obtenir un cours en francisation. Puis... Les gens qui viennent là, puis qui ne maîtrisent pas la langue, puis qui en ont peut-être 5 de langue, tu sais, ils ne font pas exprès de ne pas vraiment maîtriser. On s'entend, parce que quand tu croises les gens dans la rue, dans les milieux communautaires, etc., ils sont tellement fiers de pouvoir se sortir 2-3 mots en français. Donc, il y a une façon de faire la promotion de la langue qui rassemble. Et puis, je veux dire, il y a d'autres façons de faire. Tu sais, donc... plutôt que d'imposer par des moyens coercitifs, puis toujours... Mais ce n'était pas la question de la langue dont il s'agit. C'était se sentir insulté du manque de reconnaissance de l'histoire. Tu sais, je pense que ça n'est pas un manque de reconnaissance de l'histoire du Québec, son rapport au colonialisme anglais, son rapport... Le Québec est dans une situation étrange. Il est le colon et le colonisateur. Il est le colonisé, plutôt, et le colon. Tu sais, il a le double standard. C'est difficile, c'est sûr, au niveau de l'identité, de s'y retrouver. Mais il ne faut pas l'oublier. Puis justement, ta souffrance, tu t'en sers comment ? Ton histoire, tu t'en sers comment ? Quelles leçons tu tires de l'histoire ? Pour ne pas reproduire aujourd'hui, tu sais, ce que tu reprochais il y a quelques centaines d'années.
Okay. Ben, c'est là que ça devient intéressant, Eve Torres. Ça va être quasiment la dernière question. T'es vraiment incroyable. Ça va susciter du débat, là, cette entrevue-là. Eve Torres, parce que le Québécois a réussi à mettre quand même sur pied une société juste, équitable, qui tend vers une justice sociale pour tous. Qui tend, quand même. Qu'il y a cette volonté du législateur de bien faire, là, disons, hein. Des législateurs. Même législatrice également. Là maintenant, ils ont vu que le monde, ça sortait de l'Afghanistan, de la Syrie, ça traversait 14 pays, pour ne pas dire 16. Moi, j'en ai rencontré qui en ont traversé 12. Et ils se pointent à la frontière américano-canadienne, voilà, américaine. Canado-américaine. Puis là, comment ça rentre au Québec? Ça a l'air que c'est là le maillon faible. On rentre via le chemin Roxham, n'est-ce pas?
On rentre.
Mais ça rentre à côté, je pense, maintenant.
Bon, il y aura toujours un chemin.
On n'espère pas. Mais Parce que c'est ça, c'est moi je fais un peu l'avocat de ceux qui sont pas là, voilà, on va dire comme ça. Pour être juste, il y a d'autres gens qui sont en Afghanistan, qui sont en Syrie, en France, au Liban, assurément, en Haïti, qui font des demandes via le processus normal et légal. Puis là, on voit que durant la dernière année, quoi, c'est près de 40 000 au grand pic là, de l'été, de la pandémie, du passage, là, j'ai pas les données exactes. 45 000 personnes qui rentrent, c'est comme la cible du gouvernement Legault pour une année, tu sais. Pendant qu'il y a des gens qui attendent là, tu sais, leur certificat de sélection, leur résidence permanente, voire même leur citoyenneté. Est-ce qu'il n'y a pas un double standard où ce que oui, on va en accepter là, mais il y en a d'autres qui attendent par souci d'équité, de justice pour tous?
Bon, déjà, je ne pense pas qu'on soit encore arrivé à une société équitable,
Mais on tend
parce que
vers
de
ça.
toute façon, bah, on est dans un système tu sais, capitaliste, politique néolibérale et tout ça, etc. Donc, je veux dire, le capitalisme, à la base, tu sais, son essor, son envol, c'est sur les rapports de pouvoir, c'est sur l'exploitation de l'homme par l'homme avec un grand H. Donc, de toute façon, on est encore dans ces systèmes de domination qui font que.
On est dans une
Maintenant,
social-démocratie européenne, attends.
oui, c'est ça. Et puis bon, mais
Une
attends,
chance.
on est
Ouais.
heureux, tu sais, d'être ici.
Ouais,
On
c'est ça,
est.
ouais.
Non, non, il n'y a pas de souci. Tu sais, je veux dire,
Le
on
plus
a
meilleur
accès.
pays au monde, comme
Bah,
disait Monsieur
moi,
Katai.
je veux dire,
Hein?
j'aime là être
Le
ici. Et
très
puis
honorable.
il y a plein d'autres super beaux pays. Mais en tout cas, c'est. Regarde, chacun son histoire. Chacun son histoire, chacun sa raison de migrer. Chacun pourquoi il est poussé. Faut pas oublier quand même que dans la majorité des pays, et puis moi, je regarde l'immigration dans un rapport nord-sud. D'accord? Les pays du nord, occidentaux, ont une responsabilité immense sur ce qui se passe dans les pays du sud. On va le dire comme ça, pour simplifier la discussion. Que ce soit les mouvements migratoires en lien avec l'environnement, le pillage des ressources, les changements climatiques, pour lesquels, avec les avancées technologiques, entre autres, tu sais, on a
Les
aussi un gros
émissions.
impact. Les guerres, les exploitations de sol, etc., etc., etc. Tu sais, et puis bon, tu remontes ça dans l'histoire,
Oui,
mais je veux
bien
dire,
sûr,
même
bien sûr.
actuellement. Donc, pour moi, on a une responsabilité sur ce qui se passe. Parce que même si dans plein de pays, il y a eu une décolonisation, tu sais, il reste quand même encore, tu sais, tous les
Mais tu fais
rapports
pas
économiques,
l'argument du
etc.
gouvernement.
Mais c'est
C'est
pas,
pas
pour moi, c'est pas un
juste.
argument.
Ouais.
C'est-à-dire, bah déjà, je suis pas
On n'a pas la
pour les
capacité
frontières,
d'a...
mais de dire
Ok,
qu'on n'a pas la capacité d'accueillir. Je suis pas d'accord avec ça. C'est comment on accueille les gens. Tu sais, c'est comment on accueille les gens, quels moyens on se donne pour les accueillir. On ne peut pas juger les gens qui arrivent de manière irrégulière. Je préfère utiliser ce mot-là. Quand ils rentrent par le chemin Roxham, ce n'est pas une façon illégale, c'est une façon
Irrégulier.
irrégulière d'entrer. Et comme tu dis, il y a des gens qu'on. J'ai entendu encore cette semaine une femme qui a traversé 14 pays. D'accord? Donc, on discutait, c'est ça, dans un échange comme ça. Elle a traversé 14 pays. Elle raconte un récit. Le premier bateau qu'elle prend là pour partir, elle partait d'Haïti. Il fallait alléger l'embarcation. Donc, ils leur ont demandé de vider les vêtements. Il y avait trop de vêtements. Elle, son bébé, était déposé sur la pile de vêtements. Le passeur énervé, là, qui est trop, et puis qui voulait quand même que son bateau avance et qu'il soit allégé, il a jeté des piles de vêtements. Le bébé est parti dans l'eau avec la pile de vêtements. C'est une histoire, hein. Et des histoires comme ça, il y en a, il y en a, il y en a. On ne sait pas. Il y a des gens qui sont menacés de mort. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui vivent la guerre. Il y a des gens. Pour moi, c'est chacun son histoire. Donc, tant mieux. Tu sais, si tu peux venir comme étudiant étranger, tant mieux. Si tu peux venir comme immigrant économique, tu sais. Mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui a cette possibilité-là. chacun, selon sa condition, essaye, parce que l'objectif est le même. Les gens veulent se trouver une meilleure vie. Donc, ce n'est pas à moi, c'est pas à nous de juger qui arrive, qui doit être priorisé. T'sais, les gens ont le droit à la vie, on est un pays de droit, tout le monde veut une meilleure existence, etc. Donc, l'argument de « ouais, il y a ce... »
La frontière, le point d'accès de chemin Roxham, pour des raisons...
Mais dire qu'on n'a pas la capacité, de toute façon, si c'est des raisons électoralistes, il va se tirer dans le pied anyways. Parce que dire qu'on n'a pas la capacité d'accueillir... Oui, mais c'est ça, le risque. Mais oui, mais électoraliste, pourquoi ? Est-ce que tu penses vraiment que Justin Trudeau va faire des votes en ayant fermé le chemin Roxham ? Ben non.
Mais non. Il montre au reste du Canada qu'il a du tonus.
De toute façon, il n'a pas grand-chose à perdre. Il a fait déjà deux mandats. Puis jusqu'à présent, il n'y a pas au fédéral quelqu'un qui a fait un troisième mandat. Donc, je ne vais pas dire les dés sont jetés. Mais politiquement, ce qu'il fait actuellement, tu comprends ce que je veux dire. Là, en fait, c'est juste dans le parcours politique qui vient. Mais juste ce que je veux dire, c'est que pour terminer avec ça, on a une capacité d'accueil. Le gouvernement peut gérer la façon dont il octroie les financements pour que ces personnes-là soient mieux reçues. Il y a du travail à faire sur la façon... dont on peut accueillir et contribuer à rendre plus facile la vie de ces personnes qui ont déjà un parcours terrible.
Je vais poser la question, Eve, que ceux qui ne sont pas là, ils aimeraient peut-être poser. Ouais, mais en continuant d'accueillir autant de gens, est-ce qu'on ne contribue pas à faire disparaître le fait français, québécois, français.
Mais.
En Amérique. Moi, je te pose la question.
Mais comment donner les moyens de faciliter une meilleure. Parce que ça aussi, la francisation, là, elle est prise en charge par le MIFI actuellement. Les organismes communautaires, tu sais, eux-mêmes ne trouvent pas suffisamment de professeurs. Je le disais tout à l'heure, il y a 10 mois à peu près dans les listes d'attente. Bon, les gens qui sont vraiment dans les organismes communautaires pourraient mieux répondre. Mais les listes d'attente sont grandes. Donc, financer mieux les groupes pour que, tu sais, il puisse y avoir des jumelages, etc. Il y a des façons. Et même à ça, non. Aussi, on avait parlé de la francisation en emploi, qui est aussi une des stratégies. Donc, trouvons... Aussi. Régionalisation, j'ai une autre position aussi peut-être là-dessus. Parce que... dire simplement, bon, régionalisation, tu sais, on envoie les gens ailleurs comme ça, peut-être il faudrait repenser la revitalisation des régions parce qu'on a oublié en région, tu sais, on n'a pas... On oublie souvent, tu sais, on fait de la politique montréalaise, même dans la politique provinciale. La plupart des partis sont beaucoup centrés. Les problèmes de logement, il y en a aussi aux régions. Des problèmes d'emploi, il y en a aussi en région. Puis, l'accès à l'université, à un médecin, les attentes. Je veux dire, c'est aussi le cas des régions et on n'en parle pas assez. Donc, avant de dire, oui, il y a de l'espace, puis peut-être, mais il y a des problématiques similaires sur lesquelles on devrait s'intéresser toute l'année. Donc ça, c'est quelque chose, et justement des partis, notamment comme Québec solidaire, qui sont vus comme des partis montréalais, lorsqu'ils militent pour le droit au logement, parce que je vais quand même, tu sais, ils sont quand même forts sur le droit au logement et des choses comme ça, notamment, on peut donner ça, mais souvent dans le discours, tu sais, faudrait le penser aussi en région. Parce qu'il y a ces problématiques-là qui sont rencontrées. Donc, si on fait une revitalisation de la région, parce qu'effectivement, il y a de très beaux espaces et tout ça, mais qu'on s'en occupe, qu'on remet, effectivement, on pourrait offrir avec des transports, l'accès, c'est ça, pareil, des accès plus faciles à des hôpitaux, régions, pas forcément. Ouais. Voilà, l'accès, un meilleur accès aux services, mieux connectés, etc. À partir de ce moment-là, oui, il pourrait être intéressant pour une personne qui arrive, peut-être à un moment donné, de choisir... C'est un endroit un peu plus hors de Montréal. Mais pour l'instant, tout, que ce soit des services, que ce soit des lieux de culte, que ce soit beaucoup de choses sont encore dans les grands centres. Donc, c'est peut-être pour ça, penser le Québec autrement, donner aux régions déjà qui sont là et les gens qui y sont déjà, tu sais, qui réclament certaines facilités de service, je pense que c'est ça qu'il faudrait inclure dans la politique. Toute la vie du Québec ne se passe pas à Montréal, puis au-delà des deux, trois ponts et puis des troisièmes liens, pardon, et tout ça. Il y a d'autres enjeux qu'on n'aborde pas assez par le prisme des régions. Donc, si on fait ça, peut-être qu'après, on pourrait aller...
F-Torres, incroyable. F-Torres, il y a deux questions, comme dirait Guillaume Lepage, qui tue. Manon, appuie sur le piton. F-Torres, très rapidement, un retour en politique pour quand?
Ah, bonne question.
OK. Ah, attends, tu dis pas non?
Je dis pas non, okay. C'est quelque chose qui m'anime. Présentement, je travaille dans un domaine qui me plaît, où je fais des choses qui me plaisent, mais la politique, c'est autre chose. Jamais. Non.
Même notre régisseur, toute l'équipe, là, ils sont morts de rire. Salut les gars.
Non, je suis pas, non.
Et pour terminer...
En tout respect pour la chefferie du Parti libéral, mais pas
toi,
moi.
Ça ne t'intéresse pas, non? OK. Et pour terminer, là, je pense que ça va même traverser l'Atlantique, tu me vois venir.
Tu veux terminer, ça fait trois questions.
Il y a François Legault, il y a Madame Guilbeault, vice-première ministre, il y a Monsieur Dubé, là, qui est en bonne position. MBC, est-ce que tu penses un jour on pourrait le voir à l'investiture, à la chefferie d'un parti, et éventuellement le voir comme premier ministre? Il faut être capable d'envisager...
Tu me demandes un avis objectif ou pas? Ouais. Pour l'instant, disons que Mathieu Bock-Côté...
Il fait bien là, en Europe, là, quand même. Là.
Bah, non, pour moi, MBC, pour moi, ne fait jamais bien.
Okay, mais il travaille,
je vais
mais
être aussi clair. Il fait ce qu'il a à faire, okay. Mais présentement, il est occupé. Il fait la couverture des magazines sur son nouveau style de dandy. Oui. Donc, je pense qu'il peut continuer, il peut continuer de le faire là-bas. Ici, on va faire ce qu'on a à faire.
OK, c'était ta réponse.
C'est ma réponse.
F. Torres, écoute, toute une entrevue... On vient d'alimenter là, les différentes collines parlementaires. Oh là là, ouf, Coconut Podcast vient de scorer fort, comme on dit. Ève Torres, incroyable. Coconut Podcast, on a eu cette opportunité d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. On s'est rendu sur la côte nord et on a appris en Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Par la suite, on s'est rendu. Écoute, aux îles de la Madeleine, il y a ancestralement parlant nos frères et sœurs en territoire Mi'kmaq. Ils nous disent en langue Mi'kmaq, « Ouais, Laline! » Nous autres, tu sais, Coconut, on aime ça se promener. On est passé par la capitale nationale. Puis là, on est allé voir nos frères et sœurs Huron Wendat. Et en langue Wendat, ils nous disent « Téawek! » Puis là, écoute, c'est pas terminé. Tu le sais, c'est Coconut Podcast. On est allé à Odanak. Eh oui, on est allé voir les Obamsawin, entre autres. Et là, en langue Abenaki, ils nous disent « Oh, Léone ». Puis finalement, F. Torres, écoute, on est montés, nous autres, en Abitibi. Ah ouais, c'est pas finalement. Tu sais, finalement, il y en a toujours une petite réserve. On est allé voir nos frères et sœurs vers Rouyn-Noranda, Lac-Simon, Picaugan, dans ces coins-là. Et en langue algonquine, ils nous disent « Miigwech ». Et pour terminer, F. Torres, tu vas le dire avec nous, celui-là, parce que c'est celui de la région de Montréal. On a entre autres nos frères et sœurs Mohawk, et ils nous disent « Niawen ».
Niawen.
Ah ben là, c'est trop facile pour toi.
Alors je dirais salam alaikum.
On va dire un bon chakran. Merci à toi, Ève.
Merci à toi, Alain. Merci beaucoup pour l'invitation.
Wow. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec Ève Torres, militante pour les droits de la personne, et surtout, elle milite activement sur une base quotidienne pour une justice sociale pour tous. Alors, on lui dit merci. Ouais, toute l'équipe, hein, On est bien content qu'elle ait été avec nous aujourd'hui. Puis surtout, ouais, même le caméraman est là. Wow, brother! Ben, normal. Alors, franchement, wouh! MBC! Respect, hein? F-Torres, vous savez, elle aime votre swag. Alors, sur ce, messieurs, dames, on se revoit pour une autre entrevue. Toute l'équipe, merci vraiment d'avoir été avec nous et on va vous en mettre vraiment ouh, plein la vue pour cette troisième année avec vous. Sur ce, on vous dit merci. Niawen, votre animateur, Alain Joe, et on était avec Eve Torres à la caméra, sonorisation, le grand Dodo Dorian. Sur ce, Niawen, merci! Tcha! Olé!